chapitre 23e, où l'on voit que le métier de seigneur est plus compliqué que celui de pêcheur de truites. Roland les attendait, à cheval, appuyé sur sa lance, dont le fer était fiché en terre. Il réfléchissait, le héros. Il rêvait à Corisande, à la gloire, au vieux Charlemagne, au royaume qu'il allait conquérir, à la dureté de sa maîtresse et au plaisir de se venger en la faisant reine d'Occident. Au milieu de ses réflexions, il leva la tête et reconnut le Gascon qui s'avançait à pied, tenant son cheval par la bride et donnant le bras au pêcheur de truites. « Voilà notre philosophe, » dit Rimbaud. « J'ai eu peine à le décider, mais enfin il consent à nous suivre. Avec lui, du moins, je ne crains plus de m'ennuyer. »« Mais drôle que tu es, » dit Roland, « tu craignais donc de t'ennuyer avec moi ?»« Pourquoi non ?» interrompit Ali. « Oh, ne te fâche pas. Tu es un héros, c'est connu, et tu as la tête dure. Ce n'est pas étonnant si l'on songe que ton casque a reçu depuis 10 ans plus de 6 000 coups de massue, de lance ou d'épée, et que ton crâne n'a pas fléchi sous cette grêle épouvantable. Mais la même dureté qui protège ton crâne contre l'ennemi le défend aussi contre les idées nouvelles ou ingénieuses. Pendant que ton bras travaille, ton cerveau se repose. C'est ce qui fait de toi le plus sublime héros dont j'ai jamais gardé le souvenir. Dit Roland. « Je ne t'entends pas trop bien. Je soupçonne seulement que tu ne me flattes pas. Tu viens avec nous en Occident ?»« Oui, » dit le pêcheur. « Je vais faire le tour du monde, avec toi ou avec un autre, peu importe. » Comme Ali était à pied, le comte d'Angers et le Gascon ralentirent le pas de leurs chevaux. Peu à peu, la nuit vint. On entendait dans les fossés, le long de la route, le coassement des grenouilles et ce profond murmure qui s'élève vers le ciel, formé de tous les bruits de la terre. La nuit était chaude, et de fréquents éclairs, déchirant les nuages, annonçaient un orage prochain. Enfin, vers minuit, le tonnerre commença à gronder, et une pluie abondante tomba sur les trois voyageurs. Ils cherchèrent un abri à l'entrée d'une forêt, dans une hôtellerie de mince apparence. Roland descendit de cheval, se dépouilla de son armure, pensa lui-même bride d'or, car il ne voulut laisser à personne le soin de ce fidèle ami, et vint, plus d'une heure après, se chauffer et se sécher devant le feu de l'hôtellerie. Rimbaud, qui avait suivi son exemple, mais que son armure n'embarrassait pas, était déjà assis et ôtait ses bottes. Quant au pêcheur et à son chien, dès leur arrivée, ils s'étaient installés au coin de la cheminée, et ils attendaient patiemment le souper. Cette vue ne laissa pas de donner de la mauvaise humeur au comte d'Angers. Ali s'en aperçut et se mit à rire silencieusement. « De quoi ris-tu ? » demanda Roland. « De ta bêtise, » répondit l'autre. Le comte d'Angers leva le poing sur lui. « Oh oh ! » reprit Ali. « Es-tu de ce caractère ? Est-ce que la vérité te déchire les oreilles ? En ce cas, bonsoir et bon voyage. » Il se leva aussitôt, mais Rimbaud le retint. « Seigneur comte, » dit le Gascon, « je vous avais bien prévenu que c'était un philosophe. »« Philosophe tant qu'il lui plaira, » dit Roland, « mais non pas jusqu'à se moquer de moi, je ne le souffrirai pas. » »« Par la jument du prophète, » s'écria le pêcheur, « je veux parler et rire tant qu'il me plaira, et si cela te déplaît, je te planterai là. Tu fais le grand seigneur, tu voyages à cheval avec une armure, une lance, une épée. La pluie qui mouille les chevaliers et les héros, comme les autres hommes, te trempe jusqu'aux os, et tu viens me chercher querelle. » Encore ? Dit Roland. « Ma foi, » continua le pêcheur, « je plains les peuples d'Occident. Quel roi tu vas faire ? On ne peut pas te dire deux mots sans te mettre en colère. Que sera-ce donc quand tu auras la couronne en tête et le sceptre en main ?»« Seigneur comte, » reprit Rimbaud, « un peu de patience, ou bien Ali va nous quitter. Soupons. » On soupa de bon appétit. Au dessert, quand le vin eut rendu la joie aux trois compagnons, Roland mit ses coudes sur la table et dit au pêcheur « Ça, qu'appelais-tu tout à l'heure ma bêtise ?»« Écoute, » dit Ali d'un air grave, « je veux bien te répondre. Mais convenons d'abord qu'en aucun cas tu ne lèveras la main sur moi, et que tu ne répondras pas par des coups de poing à de bonnes raisons. »« C'est convenu, » dit Roland. « Bien. Dis-moi maintenant, qui te force d'aller à cheval quand il est si doux, si facile et si commode d'aller à pied ?»« Je vais à cheval, » répondit Roland, parce que mon armure est pesante et que la marche me fatigue. » Bien répondu. « C'est plaisir de raisonner avec toi quand tu as soupé. Maintenant, qui te force de porter une armure ?
Ma foi, c'est l'usage.
D'ailleurs, j'ai un juste corps de velours brodé d'or et une bourse pleine de sequins dans les poches. Il faut être bien armé pour les défendre.
Et qui te force de porter un juste corps de velours brodé d'or et d'avoir une bourse pleine de sequins ?
Personne, dit Roland, mais c'est l'usage. Ne suis-je pas un seigneur ?
Très bien.
De sorte qu'étant un seigneur, tu as de beaux habits. Qu'ayant de beaux habits, tu prends une armure et une épée pour les défendre. Qu'ayant une lourde armure, tu as besoin d'un cheval pour te porter. Qu'ayant un beau cheval, tu le penses avant de souper toi-même. Et qu'étant refroidi et mouillé, tu es furieux contre ceux qui sont secs et au chaud au coin du feu. Voilà où te mène le plaisir d'être seigneur.
Alors tu te crois plus heureux que moi, dit Roland.
Au moins, répliqua le pêcheur de truites, je suis d'humeur plus gaie.
Ce mot fit réfléchir le bon chevalier, mais ne le convainquit pas. Rimbaud vint à son secours.
On ne se mouille pas tous les jours, dit-il. On n'a pas toujours sa cuirasse sur le dos et son cheval entre les jambes. Et il est quelquefois agréable d'aller à la cour et de plaire aux grandes dames.
Truite et saumon, dit Ali, as-tu perdu le sens, mauvais rimailleur ? Qu'ont-elles donc de si rares, ces grandes dames dont tu parles ?
Elles font plus de façons, voilà tout. La sauce n'est pas la même, mais n'est-ce pas toujours le même poisson ?
Justement, dit le Gascon, mais la sauce vaut mille fois mieux que le poisson. Et quelle sauce divine ! Des refus, des grâces, des caprices, des langueurs, des larmes, des sourires, des révérences, tout ce que le bon Dieu a prodigué aux dames pour nous mener au galop sur le grand chemin de l'enfer. Demande au seigneur chevalier comment il a été accommodé par la belle Doralice.
Ne dis pas de mal des dames, interrompit Roland.
Ma foi, seigneur, si la conversation vous ennuie, n'écoutez pas et laissez-moi philosopher à mon aise avec Ali.
Les trois convives passèrent encore une heure dans ces discours et s'endormirent du plus profond sommeil. Le lendemain, quand le soleil parut, ils se remirent en marche. 10 jours après, ils traversèrent un pays admirablement cultivé et qui ressemblait à un jardin. Ce pays était enfermé dans une enceinte circulaire de collines qui s'ouvrait par 2 défilés, fort étroits et faciles à défendre. L'un était situé à l'est, l'autre à l'ouest de ces collines. Au milieu de cette vaste enceinte, on apercevait une ville de médiocre étendue, entourée de hautes murailles. Sur la route, un peu en avant de la ville, se trouvait un poteau avec cette inscription « Il est ordonné, sous peine de mort, à tous les étrangers, de déposer les armes avant d'entrer dans la ville. »
« Oh ! » dit Roland, qui se fit lire l'inscription, « voilà un poteau bien impertinent. Je suis curieux de voir si quelqu'un osera mettre la main sur moi pour me désarmer. »
En même temps, il poussa un bride d'or en avant et mit sa lance en arrêt.
Ali et Rimbaud le suivirent assez lentement, peu soucieux de violer la loi d'un peuple et d'un pays inconnus.